Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guilmette.
Hey, je suis vraiment encore content. Je suis toujours content quand je commence mes balados parce que j'ai toujours des gens extrêmement intéressants. Et aujourd'hui, j'ai une jeune femme de 24 ans. En passant, elle va avoir 25 ans le 8 octobre. Elle s'appelle Andréane Bouchard. Andréane, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Toi, Richard, ça va bien?
Bien, ça va popper, ça va popper, malgré le fait qu'on soit dans une crise nationale et internationale. C'est quand même difficile. Dis-moi, pour toi, est-ce que c'est dur, ça, la pandémie?
Oui, effectivement, c'est très difficile. Ben justement, là, à cause de la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Puis il y a beaucoup de choses qui s'est passé là, qui a déstabilisé un petit peu là, mon système au quotidien. Là. Fait que c'est certain que c'est pas évident, mais on garde le moral, puis je continue du mieux que je peux à gérer tout ça.
À gérer ta vie. Tu sais, Andréane, toi, tu as un handicap physique.
Oui.
Tu es lourdement handicapé. Ton diagnostic, c'est quoi? Comment on appelle ça? Parce que moi, j'ai essayé de le dire, puis j'ai dit, oh non, non. Moi, il faut dire, moi, là, j'ai un clown, non? Comment qu'on dit ça?
Alors, j'ai l'arthrogrypose congénitale multiple.
Bon, là, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, en fait, je vais le dire grossièrement, c'est l'atrophie de mes articulations au niveau de mes quatre membres. Alors, comme un petit peu, je dis normalement, c'est un petit peu comme si j'avais des plâtres au niveau des jointures, donc au niveau des poignets, des coudes, des genoux, des hanches, puis c'est comme bloqué là. Donc, si, exemple, quelqu'un qui a un plâtre et qui est comme soudé à 90 degrés, ben, il ne peut pas déplier son bras parce que c'est dans un plâtre. Donc, c'est un petit peu le même principe, mais à l'interne, donc je suis coincée dans le degré que mes membres sont.
OK. Puis ça, ça... Puis tu m'avais dit un deuxième diagnostic aussi que je ne suis pas capable de nommer non plus. Là.
Oui, alors j'ai aussi le syndrome du vomissement cyclique chez le jeune enfant.
Hey, juste le nom, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Non, mais je te confirme que c'est vraiment dégueulasse.
Explique-moi ça.
C'est vraiment, je vais vraiment dire ça crûment là, à la Québécoise, Lac Saint-Jean, let's go. C'est de la merde. C'est en fait, je dirais, là, ça ressemble un petit peu à une gastro-entérite. Entérite, excuse-moi, mais c'est cyclique, donc ça revient toujours.
Oh, l'enfer.
Ah, c'est vraiment festif.
L'enfer.
Dieu merci, c'est un diagnostic qui, dans la plupart des cas, va s'atténuer un petit peu avec le temps. Et lors de la puberté, là, généralement, ça diminue. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Donc, ça m'arrive encore, mais c'est plus comme avant, comme à tous les mois. C'est comme...
Tu peux être à préférer de quoi, puis à un moment donné, là, t'as mal au cœur, faut que tu ailles vomir.
Ben en fait, c'est un peu plus vicieux que ça.
C'est plus vicieux que ça.
Oui, c'est plus comme exemple, je suis en train de préparer un événement qui va me procurer un bon stress, mais quand même une émotion, puis ça va enclencher un cycle. Un cycle, ça veut dire que je vais être
c'est moi. Attends un peu. Hey, attends un peu, je vais fermer ma caméra pour juste me voir, ma grande beauté, tu vas peut-être te mettre à vomir. Je dis quand tu m'as vu, mon Dieu, le stress, puis il est donc bien beau, non?
Non, mais ça m'arrive plus là, de cette manière-là, mais c'était ça pareil. C'est vraiment, j'avais un stress et un cycle qui embarquait, puis je peux passer là, 6 à 10 jours hospitalisés par cycle. Fait que c'est vraiment ça à chaque fois. Là.
OK, parce qu'il fallait faut que tu sois hospitalisé aussi, là.
Oui, exactement.
Tu ne peux pas vivre ça à la maison, là.
Non. Ben maintenant, oui, là, mais avant, non. Maintenant, oui, parce que justement, comme les crises sont moins agressives, j'arrive à contrôler avec la grosse médication qui me met knock-out là, pendant un petit bout. Mais bon, avant, c'était pas suffisant. Il fallait vraiment me mettre sur les solutés, me réhydrater, m'envoyer des électrolytes. Tout restarter le système au complet. Mm. Fait que je peux vous dire que ça a toujours été beaucoup de sport.
Les deux diagnostics que toi, est-ce que c'est dangereux pour ta vie? Est-ce que ta vie est en danger?
Pour le diagnostic, je veux dire, de mon handicap physique, là, mon handicap vraiment, celui-là n'est pas dangereux pour ma vie, c'est un état non dégénératif. Donc, c'est vraiment juste que je suis mal formée au niveau des bras et des jambes. Par contre, le syndrome du vomissement cyclique chez le jeune enfant, j'ai passé à plusieurs reprises, là, pratiquement une fois par mois pendant 18 ans de temps, passé proche de la mort. Oh. Donc, à chaque crise, c'était proche du coma, ça prenait les soins intensifs là, bien souvent, puis beaucoup de larmes. Ouais, ça a été, wow, c'est l'enfer, honnêtement, là, c'était pas mal ça.
L'enfer, oui, vraiment. Puis aujourd'hui, quand ça t'arrive, t'es pas obligé d'être hospitalisé, non?
Non, aujourd'hui, c'est en fait, je vais prendre tout simplement de l'Ativan pour me calmer, un antinauséeux puissant, et je vais me coucher et attendre que la crise passe, puis je vais me nourrir pendant quelques heures, là, mettons, on va dire peut-être 24 heures avec des liquides, des pédialytes et tout ça pour vraiment comme recommencer à m'hydrater, parce que c'est vraiment ça le danger, là, c'est la déshydratation. Là.
C'est pas évident. Ta maladie, mais c'est le fun qu'on, parce qu'au moins les gens qui nous écoutent vont pouvoir visualiser un peu à qui ils parlent, parce qu'on ne voit pas, là, on fait juste entendre. Puis on dit, elle a l'air d'une femme, une jeune femme très, très normale. Mais là, je viens toujours avec ma phrase, mais c'est quoi la normalité? C'est ça, là. C'est ce que la société nous dicte. Hein? Alors, bon, on peut dire que tu es lourdement handicapé, tu as un fauteuil motorisé, tu le véhicules en fauteuil motorisé. Moi, je t'ai connu dans le contexte où tu sollicitais les Québécois pour avoir le bras Jaco, parce que toi, tu es ambassadrice. Parle-moi de ça.
Oui, ben en fait, là, je ne suis plus ambassadrice. Par contre, je l'ai été pendant environ 6 mois. Là, j'ai vraiment aidé là, Kinova là, avec Libra Robot à présenter un petit peu l'impact de ce robot-là dans ma vie au quotidien. Puis, c'était vraiment ça, là, mon travail. C'était vraiment de montrer ce que je peux faire avec, puis d'aider les nouveaux utilisateurs là, à agir avec lui, parce que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut se le dire, moi, je n'ai pas l'usage de mes bras. Donc, ce robot-là, il représente pour moi 100% de mon autonomie, parce que sans robot, j'ai juste 0%, on s'entend. Donc, il a fallu quand même que je m'adapte à ce bras-là, parce que du jour au lendemain, quand on prend un corps, exemple, qui n'a jamais bougé rien, puis qui n'a jamais pris un verre, on ne peut pas tout de suite programmer le cerveau à prendre un verre tout seul, à ouvrir un armoire, le réflexe n'est pas là. Fait que moi, personnellement, là, ça m'a pris un bon 3 ans là, avant d'être capable d'utiliser mon bras là, à son plein potentiel. Là.
Mais aujourd'hui, tu es très habile avec ça, puis tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec?
Au quotidien, là, si je donne une journée type, là, ben, le matin, exemple, je vais brosser mes dents. Je vais me
maquiller. Tu brosses tes dents avec ça?
Oui, tout à fait. Je brosse mes dents.
T'es mongole.
Ben, c'est bien pratique parce que je déteste me faire brosser les dents par les autres. Fait que je suis bien contente. Puis je peux manger, bien sûr, certaines choses. Mais
ça doit être incroyable, se brosser les dents avec ça.
C'est merveilleux. Je ne peux pas vraiment le démontrer là, parce que que c'est quand même un petit peu étrange de montrer ça aux gens.
Non, c'est dégueulasse, en fait.
Effectivement. Mais quand même, je peux vous dire que, tu sais, mis à part cela, ben, je vais me maquiller. Le fond de teint, le mascara, le eyeliner, le blush, tous les détails.
Aujourd'hui, est-ce que tu t'es maquillée avec ça?
Non, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée.
Parce que j'allais dire que tu es sublime. T'es vraiment... Les gens ne peuvent pas te voir, mais tu es sublime. Puis je me dis, si tu t'es maquillée avec ça, my God, t'as pas raté ta shot, hein?
Ben écoute, ça c'est vraiment l'art du bon Dieu, comme j'appelle ça, parce qu'en ce moment, je suis vraiment pas maquillée.
Ah oh, non, mon Dieu, vive non. Maman, vive papa, parce que...
Vive maman, vive papa.
OK, fait ouais. Que t'es... Mais, OK, excellent, t'es sublime en tous les cas.
Merci.
Ça je dis, fait que c'est super cool ton bras, Jaco, se brosser les dents, se maquiller, puis là, ben tu manges avec ça ou non? Tu manges aussi?
Oui, bien en fait, je vais manger. Par contre, c'est pas que je suis pas capable de manger, c'est que dans mon quotidien, j'ai besoin de préposer à domicile et l'accompagnement pour beaucoup de choses. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si je mange seule, ça prend plus de temps. Fait que ce que je fais, c'est que je demande à mes préposés lorsque je les ai avec moi. Puis quand je suis seule, là, je vais manger avec mon robot. Mais c'est sûr que ce sera pas quelque chose que je vais faire à tous les jours nécessairement.
Là, Andréane, tu sais, tantôt d'emblée, je te présentais comme une jeune femme de 24 ans qui va avoir 25 le 8 octobre. Mais j'aurais pu dire aussi, j'aimerais vous présenter cette jeune femme qui est également maman. Parce que tu es une maman. Alors, écoutez-moi bien, là. Elle se brosse les dents avec sa machine, là. OK? Elle se maquille avec ça. Le bras Jaco, ça, c'est exceptionnel. Je saute un peu du coq à l'âne parce que le bras Jaco, tu sais par qui ça a été inventé, hein?
Jacques Forêt.
Bon, Jacques Forêt, il me faisait rêver quand on était jeune. Moi, il me faisait rêver. Je reviens à toi après. Il me faisait rêver parce qu'il avait inventé une machine. Est-ce que tu as vu l'antiquité de ça?
Oui, tout à fait.
C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Avec une pince à blé d'Inde, puis tout le kit. Puis là, toi, tu l'as, puis tu fais tout avec ça. Fait qu'on va, on le remercie, là, du haut du ciel, hein?
Vraiment.
Puis son garçon, puis toute l'équipe de Kinova, c'est ça. Alors, je disais, j'aurais pu te présenter comme une jeune maman, parce qu'avec tout ce lourd handicap-là, ça ne t'empêche pas d'avoir une vie, encore une fois, en guillemets, normale, parce que là, en plus, tu es une mère de famille. Un petit garçon, une petite fille, un petit garçon, hein?
Non, c'est une petite fille.
Petite fille, oui, je suis un bon, une petite fille. Puis elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Zoé.
Là, Zoé, là, elle vit-tu avec toi?
On vit, en fait, 50-50% du temps, parce que, dans le fond, papa et moi, on n'est plus ensemble.
Garde partagée, OK.
Garde partagée, exactement. Fait que, c'est ça, 50-50.
Et tu vis les mêmes défis que tous les jeunes femmes du Québec, en plus d'avoir ton handicap. Donc, tu vis comme des défis de plus, mais les gens, ils se trompent. On n'a pas juste ce défi-là du handicap. On a les défis du quotidien de madame et monsieur tout le monde. Fait que toi, tu as les mêmes défis. Là, ta fille, comment tu t'occupes de ta fille? Comment tu prends soin de ta fille? Explique-nous ça. Ben, parce que tu changes pas la couche avec ton bas. Jacob, là, je vais capoter.
Non,
si tu me dis oui, je capote.
Non, mais quand même, j'aimerais vraiment ça. Mais non, c'est sûr que on va se dire, ça me prend vraiment un bon système d'accompagnement lorsque j'ai ma fille. Donc, j'ai vraiment monté, on va dire, un système d'accompagnement. Quand j'ai ma fille, j'ai des gens 24 heures sur 24.
Wow.
Donc, ça a été difficile parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement subventionné. Je ne peux pas nécessairement embarquer sur le comment, par contre, parce que c'est ça, là, ça reste quand même en train en mouvement. Hein. En ce moment, là, je suis en train de travailler pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable, de plus facile, de plus sûr. Mais pour le moment, là, j'ai quand même toujours eu des gens, là, puis ça va super bien. J'ai des gens 24 heures sur 24, des bénévoles surtout. Mm-hmm. Donc, merci à eux si jamais ils écoutent le balado éventuellement. C'est vraiment avec les gens. Donc,
moi, personnellement, je suis horrifiée. Je suis horrifié, puis je vais te dire pourquoi. T'as pas... On l'entend. Moi, je l'entends. Je parle pas à une femme de 24 ans. On dirait que t'écoutes, t'as un grand vécu, ça paraît. T'as une grande maturité. T'es une maman. Puis t'es obligé de quémander de l'aide des gens pour t'occuper de ta fille. Pour vrai, t'as juste besoin de ton mental, puis que le gouvernement s'implique. Non. Je veux dire, l'assistance personnelle devrait être accordée pour toutes les personnes qui en ont... Dis-moi ce que tu penses, tu sais.
Je dirais que c'est difficile de dire ce que je pense sans devenir émotif, parce que c'est effectivement
deviens émotif, puis dis-y à l'État de quoi tu as besoin. Dis à l'État de quoi tu as besoin pour être une maman, une vraie maman complète, là. Te satisfaire dans ton rôle de maman, parce que là, tu peux pas être satisfaite dans ton rôle de maman, j'imagine, là.
Ben, du moins, grâce aux gens que j'arrive à trouver, j'arrive à avoir quand même... Mais c'est certain que c'est pas nécessairement toujours digne, cette situation-là actuellement que je vis, parce que ce que j'ai besoin, si l'État un jour m'entend, c'est de bras et de jambes, des gens salariés qui viennent me prêter leurs bras et leurs jambes pour pallier au fait que moi, je ne les ai pas et que j'en ai besoin. Mm-hmm. Puis qu'il y a des gens qui cherchent des emplois puis qui veulent le faire. Fait que, tu sais, la main-d'œuvre est là, les gens sont là, c'est faisable, c'est pas compliqué, ça demande pas de supervision, ça demande rien pantoute, juste l'enveloppe.
je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu as demandé, parce qu'il faut dire que toi, tu fais partie du programme Allocation Directe Chèque Emploi Service, un programme qui te donne des services de maintien à domicile. Bon, donc, tu as quelqu'un que toi t'engages, donc tu es la patronne. Le gouvernement te subventionne toi. Toi, t'engages les gens, puis tu leur donnes les tâches. Fait que tu as des heures. Combien tu as d'heures? Comment que le gouvernement te dit que tu pouvais avoir d'heures, toi?
Là, pour le moment, j'ai 38 heures.
38 heures, OK. Mais il faut que tu utilises ton petit bras mécanique là, pour brosser tes dents. OK, on comprend bien l'affaire, là.
Oui, c'est ça.
Puis là, toi, tu es maman. Puis moi, je considère que le gouvernement, toi aussi, là, on considère tous les deux que le gouvernement devrait pallier à toutes tes activités de la vie quotidienne en tout temps, là.
Tout à fait.
En tout temps, ça veut dire quand tu vas à l'école, quelqu'un devrait être avec toi, parce que tu es au cégep, toi aussi, en plus.
Là. Oui, exactement, je suis au cégep. J'ai quelqu'un, par contre, avec moi au cégep, là, fourni par un autre...
Le ministère de l'Éducation, oui.
Oui, c'est ça.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça existe depuis longtemps, ce programme-là. Fait que tu as quelqu'un à l'école, mais à la maison, tes heures... C'est difficile à la maison, parce que je me rappelle, l'autre jour, on se parlait, puis tu as échappé ton téléphone à terre, ton téléphone cellulaire.
Oui,
puis
oui,
il a fallu
oui.
qu'on interrompe notre discussion puis se rappeler un petit peu plus tard, là. Fait que c'est assez... Enrage-toi, parce que, sérieusement, tu lui as demandé, tu lui as dit, j'aimerais être maman à temps plein, puis je peux pas à cause de ce que vous m'imposez.
C'est bien pire que ça,
vas-y.
Ce qui est arrivé.
Vas-y.
Lorsque j'ai voulu être maman, en partant, mon médecin, là, juste je vais commencer du début, là, d'accord, parce que je suis quelqu'un de quand même structuré dans mes paroles, mais ce que je veux dire, c'est qu'en partant, j'ai demandé à mon médecin, j'ai pas demandé à mon médecin, j'ai dit à mon médecin, je veux être maman éventuellement, plusieurs années à l'avance quand même. Elle m'a ri d'en face, premièrement.
Hey, mon Dieu, hey, ça, là, ça, je veux absolument qu'on en parle de ça après.
Ah oui, non, ça a été vraiment spécial. Là. J'ai eu quelqu'un de absolument à côté de la traque là, au départ, quand j'ai commencé à vouloir être maman. Puis, ben, en fait, plus m'informer, parce que c'est sûr que je ne voulais pas nécessairement être maman à 16 ans, là, on s'entend. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais quand même m'informer. Puis quand j'ai commencé à faire les démarches, puis j'ai vu que les gens autour de moi ne me prenaient pas au sérieux. Pas juste pour faire un enfant. Je ne voulais pas faire un enfant pour faire un enfant, non, mais je voulais quand même pouvoir apporter éventuellement à mon compagnon, à un futur compagnon ou peu importe, les informations concernant la possibilité d'avoir éventuellement une famille ensemble. Fait que moi, je m'informais de mon côté. Puis vraiment, là, on ne m'a jamais, jamais, jamais pris au sérieux. Donc, que ce soit au niveau du CLSC, que ce soit au niveau médical, jamais on m'a pris au sérieux. Il a fallu que je me lance littéralement et que j'annonce la nouvelle un coup que c'était fait. J'ai jamais eu aucune idée de l'impact sur mon corps de la grossesse parce qu'il n'y a personne jamais qui a voulu répondre à mes questions. Il a fallu que je fasse des recherches sur Google puis que je me dise, bon, ben écoute, Andréane, ça passe ou ça casse, je veux être maman, je le sens, moi, j'ai toujours voulu l'être. Puis ça va passer ou ça va casser. Fait que ça, en fait, je me suis lancée puis j'ai mis mon médecin au fait accompli. Il était trop tard, j'avais le test de grossesse positif entre les mains.
Alors, personne ne pouvait te dire c'est quoi l'impact, c'est quoi ci, c'est quoi ça.
Non.
Les gens trouvaient, ils décourageaient, ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'elle disait?
Ben, que c'est pas possible, en fait. Tu sais, Andréane, un bébé, il faut changer les couches, Andréane. Est-ce que tu es consciente de ça? Parler comme ça, tu sais. Mais oui, je suis consciente qu'il faut changer les couches d'un enfant. Là. Je pourrais prendre ton emploi demain matin si le gouvernement me donnait des bras et des jambes, tu sais. Je veux dire, je suis très capable de faire tout le parcours scolaire que vous avez fait, docteur. C'est ce que j'avais envie de répondre, tu sais.
Oui.
Mais en fait, c'est ça. Alors, j'ai dû quand même fermer mes oreilles à beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'entourage, même si ma famille me supportait et tout ça, mais il y a quand même eu des craintes qui sont tout à fait comprenables. Mais il a vraiment fallu que je me ferme les oreilles et que je me dise, OK, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences si ça tourne mal? Est-ce que je suis prête à encaisser s'il y a éventuellement une séparation? Parce qu'au début, ce n'était pas le but d'être toute seule quand même. C'était vraiment, je me suis posé toutes les questions. Comment je peux faire pour m'en sortir? Puis je me suis dit, OK, j'ai ce qu'il faut, je suis capable de gérer ça. Je gère ma business. Ma business, c'est ma vie, tout ce qui m'entoure, ma vie. J'ai ma business depuis toujours. J'ai jamais failli. J'ai toujours réussi en bout de la ligne. Donc, je ne faillirai pas là-dessus non plus. Fait que je me suis lancée.
On peut se dire que tu peux vivre ta vie comme toutes les femmes du Québec. T'sais, pourquoi tu serais une personne handicapée? Ça serait différent. Mais là, il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, les personnes handicapées, puis qui s'en foutent un petit peu, puis qui diraient, elle n'est pas capable de faire ci, elle n'est pas capable de faire ça. Pourquoi qu'elle a eu un bébé, elle? Puis qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
Ben en fait, je ne réponds absolument rien. Je lui ai fait un beau sourire d'amour et je lui montre le sourire lumineux de ma petite fille qui veut absolument tout dire.
Absolument, absolument. Puis parce que tu voulais vivre, tu veux vivre en fait comme tout le monde, puis c'est tout à fait normal.
Mais en fait, je vais te reprendre ici. Moi j'aime ça. Pas cette phrase-là. Je veux
j'aime
pas
ça.
Vivre comme tout le monde. Je vis comme tout le monde.
Et voilà.
Mon cœur bat, mes poumons pompent, mon corps existe, je vis. Je veux pas vivre. Je suis pas en train de faire un fantasme de vie. Je vis déjà.
Donc,
qu'est-ce qui me reste à faire? J'en ai eu une vie à vivre comme tout le monde. Elle est là comme tout le monde. Qu'est-ce qui me reste à faire? La subir, puis attendre que les autres me donnent de la bouffe? Mais non, je vais vivre aussi. C'est la seule et unique option. Il n'y a rien qu'un seul chemin. C'est pas un choix. J'avance. C'est par là. J'ai pas le choix.
On pense tout à fait pareil là-dessus.
Ouais.
Tu dis quoi? Écoute, quand tu parles, tu me donnes tellement d'idées de questions et de choses que je veux discuter avec toi. Donc, tout le monde te décourageait à devenir une maman. Toi, tu fuck that, tu avances en avant. Puis, tu sais, je dis, moi, je fantasme pas ma vie, je la vis.
Hein? Exactement.
Tu as clairement dit. Donc, tu vis ta vie, tu ne te laisses rien imposer. Tu changes les mentalités autour de toi. J'imagine que tu vas faire des conférences prochainement. Je te vois très bien là, dans une conférence TED ou quelque chose comme ça dans tes projets.
C'est certain. C'est certain que ça fait partie de mes projets futurs. Pour le moment, je fais des... Parce que je ne sais pas si je peux le caler maintenant. Là, je vais le caler pareil. Donc, je fais des vidéos là, quand même pour un petit peu me faire entendre par les gens. Mm-hmm. Me présenter aussi en tant que personne. Là, non pas que parler de mon handicap, mais bel et bien de ma vie en général. Donc, Andréanne Boublé sur YouTube, c'est vraiment ce que je fais pour le moment. Mais éventuellement, c'est pour vraiment faire des conférences, bien sûr. Fait que oui, ça fait partie de mes projets. Là.
C'est sûr que, cependant, tu dis, ouais, je fais des vidéos pas juste par les handicaps, mais je me présente, je dis qui je suis en tant que femme. Mais tu sais que les gens qui vont regarder tes clips, c'est parce qu'ils veulent voir avec ton handicap comment tu peux vivre comme eux. Hein?
Oui, je comprends.
Des gens qui sont pas handicapés, fait que c'est pour ça qu'ils vont... qui vont te regarder ou des fois, non, mais même des personnes handicapées vont te regarder aussi parce que on s'entend que c'est pas tout le monde qui est réveillé comme toi puis moi, là.
Ben, je comprends, je peux par exemple comprendre qu'il y a des personnes qui sont bien avec eux puis qui sont, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes dans l'univers, tu sais, je pense qu'on est comme un puzzle puis qu'on n'a pas toutes la même drive, on n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas toutes les mêmes missions sur la planète. Donc, c'est certain que ça fait qu'il y a des gens, que ce soit en fauteuil roulant ou pas, mais il y a des gens qui vont se sentir mieux avec moins, d'autres qui vont avoir besoin de plus. C'est pas parce qu'ils sont plus gâtés ou qu'ils veulent, c'est vraiment parce qu'ils sont faits comme ça. T'sais, on est tous différents.
Mais on a toute soif de liberté. On a toute soif de liberté, hein? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, on a tout soit de... Oui, ça, c'est clair.
Fait que ce qu'on demanderait à l'État, tu connais Jonathan Marchand?
Bon, oui.
Jonathan Marchand, il a fait le tour du monde. Il a fait un tour du monde web. Il a parlé à tout le monde dans le monde. Suite à l'article qu'on avait fait au Mouvement sur Handicap Québec sur la Norvège à l'époque, la Suède aussi, où ces gens-là offrent de l'aide 24 heures sur 24 à des gens qui en ont besoin. Parce qu'on ne donne pas un métier à domicile, on donne un métier à la personne. Ça veut dire, on appelle ça, ici, on appelle ça des préposés aux bénéficiaires, mais pour vrai, on appelle ça un assistant personnel. Juste le nom, il est déjà plus digne. Tu penses quoi? Tu penses que c'est ça que tu as besoin, en fait?
Tout à fait. Moi, en fait, il n'y a pas une personne qui travaille ici qui s'appelle préposée. Là. Mm-hmm. Tout le monde s'appelle accompagnatrice. Donc, tout simplement, justement, pour la dignité. Puis aussi parce que ça ne représente pas bien du tout. C'est pas que les préposés sont pas corrects, mais ça ne représente pas ce qu'ils font ici. Ici, c'est de l'accompagnement, donc c'est des accompagnatrices.
Voilà. Donc, toi, tu appelles ça accompagnant. Ces gens-là, ils t'aident à faire toutes les activités de la vie quotidienne. T'as demandé à l'État, tantôt, je t'ai demandé si tu avais demandé à l'État de donner ce qu'il faut pour pouvoir pallier à ton rôle de maman.
J'ai demandé à l'État, oui, bien à l'État, je dirais plus, là, pour le moment, je suis encore au stade de CLSC, donc je n'ai pas encore dépassé, je n'ai pas encore fait parler, brasser les choses, mais ça fait partie quand même de mes projets, d'exiger le droit de vivre avec dignité, et de vivre ne veut pas seulement dire d'être propre et d'avoir mangé, mais bel et bien de pouvoir veiller à mes occupations de femme, et ben donc d'être mère, parce que je suis mère, je ne suis pas juste une personne en fauteuil roulant, je suis mère, je dois faire mes choses de mère, je n'ai pas le choix, c'est un devoir, hein. Ça fait partie de mes besoins de base que de prendre soin de ma fille.
Tout à fait. Puis on va vers l'avant, on avance.
Oui, exactement.
Comme tu le disais tantôt, on avance, puis je vis ma vie, puis j'aimais ça, cette phrase-là. Je vis ma vie, je la subis pas aussi, ça c'est tout à fait dans ce que à quoi je crois. Mais moi, à titre d'activiste, je te dirais d'aller plus haut que le CLSC. Eux autres sont... Si j'ai un conseil à te donner, puis je me le permets, là, écris au directeur général de ton CIS et en copie conforme au ministre de la Santé, parce que tu sais qu'il y a un précédent. Là. Une bonne nouvelle, Jonathan Marchand a travaillé très fort. il a pu quitter CHSLD pour aller habiter chez eux. Il a 27 heures sur 24 de service. 27 heures sur 24. Il y a 24 heures de journée. Ça veut dire qu'il peut engager d'autres personnes. C'est pas un... Il n'y a pas quelque chose de fun là-dedans pour toi? Tu vois pas un peu ton avenir qui va changer grâce à ce précédent-là?
J'ai tellement eu du mal à gagner. Chaque heure que j'ai gagné, ben, je dis ça comme ça. Je suis bien honnête en ce moment. Moi, là, je suis passée de j'ai le droit à 10 heures semaine. J'étais à la maison chez ma mère. J'étais en détresse. J'essayais d'avoir un plan B pour m'en aller parce que j'avais besoin de vivre, justement. Puis ça a été très, 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 très difficile de me rendre jusqu'à 38. Ça m'a pris toute mon énergie. J'ai toutes les larmes de mon corps. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai tout fait ce que j'ai pu. J'ai écrit des lettres, puis au final, j'ai réussi à avoir 38 heures. Fait que quand j'entends ça, je suis tellement heureuse. Puis en même temps, je me dis, oh mon Dieu, faut-tu que je recommence un combat pour avoir ça moi aussi? T'sais, je suis tellement fatiguée. Déjà, j'ai 24 ans, je suis épuisée.
Ben, je veux dire que j'ai 48 ans, puis ça a été de même toute ma vie.
Ouais.
Donc, c'est de même pour tout le monde.
Ouais.
Mais ça s'en vient, on travaille fort pour ça, ça s'en vient, puis je t'invite à le faire. Donc oui, encore une fois, bats-toi pour avoir ce que tu as besoin. Puis tu l'as dit tantôt, tu veux vivre ta vie. Tu veux pas la subir. Tu l'as dit clairement, je te reprends, je veux vivre ma vie. Mais pour vivre ta vie, il va falloir que tu les écrives et tu les dises.
Ouais.
Fait que moi, je veux toujours que tu me tiennes au courant de ça, parce que ça m'interpelle, puis je pense qu'on va... Tu peux me l'envoyer en copie conforme aussi, la lettre. On oui. va t'aider à avoir ce que tu as besoin. Je pense ouais. que c'est important que tu puisses vivre ton rôle de femme, d'humain, à 100%.
D'humain, oui, exactement, d'humain.
D'humain, à 100%. Ouais. Fait que t'as quoi à dire à ces fonctionnaires-là qui sont bloqués sur leur paperasse?
Je préfère ne pas répondre à cette question.
Voilà, ben, ça veut tout dire, hein?
Ouais.
Ça veut tout dire, ils t'ont brisé un peu, ils t'ont brisé un peu?
Ils m'ont pas brisé.
Non, t'es pas cassable, toi? T'es...
Non, 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 ils m'ont pas brisé, il y a pas grand monde qui vont me briser, mais ils m'ont fait chier.
J'adore ça. Ben, j'adore pas qu'ils t'aient fait chier, mais j'adore que tu le dises.
Ouais, je comprends, non, non.
J'adore que tu le dises, j'adore que... Bon, là, tu vas continuer à faire des démarches, puis on va toujours de l'avant. Maintenant, là, j'aimerais ça, parce que, écoute, t'as l'air d'avoir une maturité incroyable, t'as juste 24 ans. Faut s'entendre, là, t'es jeune en tabarnouche, hein? Ça vient d'où, cette maturité-là? Parle-moi un peu de ton enfance, ton adolescence. Hey, parce que être une jeune fille, lourdement handicapée comme tu es, ça doit pas être facile, ça. T'as-tu été dans une école spécialisée ou t'as été au régulier?
J'ai toujours été au régulier, mm-hmm. Avec une facilité à l'école marquée. J'étais beaucoup malade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui. J'ai passé, on va dire, là, pratiquement 60% là, de mon primaire hospitalisé. Malgré ça, j'ai pas pris de retard. J'ai fait mon primaire et mon secondaire à temps. Il y a juste la dernière année du secondaire que j'ai eu une chirurgie dans le dos, fait que ça m'a retardé un petit peu, là, mais sinon, j'ai jamais eu de problème. C'est sûr que, c'est comme tu dis, ma maturité, je pense qu'elle vient quand même de là. C'est que, mais en même temps, je suis née, je sais que ma famille me témoigne ça souvent, que je suis née avec, on va dire une lumière, je ne sais pas comment dire ça, mais particulière, dans le sens que j'ai toujours été tellement joyeuse, ça a été très, très long avant que je réalise l'ampleur de mon handicap. Avant même que je réalise mon handicap, je dirais que ça n'a pas été avant 15 ans. Mm-hmm. Les gens autour de moi, ils ont tellement toujours comblé le fait que j'avais pas de bras, pas de jambes. Ils m'ont tellement toujours supporté que j'ai pas vraiment senti la lourdeur de mon handicap avant l'arrivée de la puberté puis de l'âge où qu'on veut se faire un chum puis tout ça. Fait que je dirais que c'est un petit peu le message aussi là, que j'envoie aux gens, c'est que écoutez, si jusqu'à 15 ans, j'ai pas réalisé la lourdeur de mon handicap à cause que les gens ont toujours été là pour me supporter, imaginez comment que tous les handicapés du monde entier pourraient être tellement plus heureux avec plus d'aide et du support des gens.
Tu n'as pas été infantilisé, toi, là? Là.
Non, non, j'ai pas été infantilisé. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Par contre, j'ai été aimée, vraiment.
C'est ça.
Je pense
t'as
que...
Tu as des frères et sœurs?
J'ai deux frères. deux frères que je connais. Je crois que j'ai appris récemment que j'avais un autre frère, mais je ne l'ai jamais vu.
OK.
Alors, peut-être qu'un jour, je vais le voir, là, mais c'est ça. Pour le moment, je sais qu'il existe, là, mais je ne l'ai jamais
vu. On te le souhaite. Puis tu vivais avec un de tes frères, là. Oui.
Oui, je vivais avec mon plus jeune frère, mon petit frère Clément. Donc, j'ai grandi avec lui. Lui, c'est sûr qu'on a toujours été très, très, très fusionnels. C'était comme mon petit singe, il a grandi sur moi, dans ma chaise, sur mon fauteuil roulant. Fait que lui, c'était comme ma paire de bras. je me promenais, je voulais quelque chose, son bras était là, puis il me le donnait. Puis on était vraiment très, très, très fusionnels. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça l'a aidé là, à mon cheminement là, quand j'étais plus jeune.
Tes parents t'ont élevé comme ils ont élevé ton frère?
Bien, en fait, ma mère était monoparentale.
Ta mère?
Seule. Elle m'a élevé toute seule avec toutes les maladies et tout ça. Les deux enfants étaient toutes seules à tout gérer ça comme une reine. Donc, merci maman, si tu l'entends.
Oui. Oui, parce que c'est pas évident à gérer une famille toute seule. Ma mère, pareil, trois enfants, deux en situation de handicap. On vient pas mal de la même branche, je te dirais. C'est pour ça qu'on se ressemble beaucoup. Quand tu parles, moi, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui parle à 24 ans, ça. Puis oui, mais tu vas voir, quand tu vas vieillir, il y a plein de choses qui se bousculent. Mais même à ton âge, fait que là tu es à l'adolescence, puis là, à 15 ans, là, qu'est-ce qui se passe?
À 15 ans, ce qui se passe, c'est que ben je trouve les gars bien cute.
Ben oui.
Puis pas eux autres.
Pas ça. Pourtant, t'es très jolie pour vrai. T'es vraiment jolie.
Merci, merci. Mais je pense que la puberté a été très pratique, mais j'étais pas vraiment jolie comme ça.
Non. Ah, mon Dieu, OK.
Non. J'avais une petite face ronde avec des petits yeux ronds, là.
Fait que toi, tu te trouvais pas belle, puis ton handicap te rentrait d'en face, j'imagine?
C'est ça. Mon handicap me rentrait d'en face. Puis aussi le fait que j'ai dû porter quand même en plein dans ces âges-là un corset rigide, puis
des
orthèses jusqu'aux genoux, puis tout ça. Fait que quand t'as le goût d'aller en bikini sur le bord de la plage avec les chicks de ton école, toi, tu te ramasses en plastique dans ton école, c'est vraiment pas super. Fait que c'est sûr que ça a été vraiment le moment où j'ai été comme « Oh! OK! » Ça m'a fessé dans la face, mais pas avant ça.
Tu étais triste?
Non. J'étais fâchée.
Tu étais fâchée?
Fâchée. Fâchée parce que j'avais envie de le vivre tellement fort.
T'es une lionne, hein, Andréane? T'es une lionne.
Ouais, je pense que
oui. Tu veux pas te faire niaiser, toi?
Non.
Fait que là, tu voyais, c'est quoi son idée de me mettre là-dedans? Je lui disais le comique en haut, puis... T'étais fâchée après qui, Colin? Juste fâchée.
Je dirais que, ouais, j'étais juste fâchée. C'est sûr qu'à l'âge de 15 ans, je pense que c'est un classique. Là. Les gens, en général, sont fâchés. Mais moi, je pense que c'est sûr que c'était un peu pire, j'imagine, avec tout ça. Mais non, je ne sais pas vraiment après qui j'étais fâchée. J'étais fâchée un petit peu après ma famille parce que j'avais l'impression d'être pas considérée comme une femme en devenir, mais plutôt comme une handicapée qu'il fallait éventuellement trouver des solutions. Puis j'étais beaucoup, beaucoup malade, donc il n'y avait pas d'autre sujet de conversation que ça. J'étais fâchée après les gens qui m'abordaient, mais qui m'abordaient comme étant une handicapée en premier, justement. Moi, je ressentais...
Hey, raconte-moi, écoute, faut que tu me racontes de quoi ça a l'air quand quelqu'un veut aborder une femme comme toi qui...
Oh mon
écoute,
Dieu!
Raconte-moi ça. Raconte-moi ça, ça va être trop drôle. Non?
C'est vraiment quelque chose de particulier, honnêtement. À chaque fois, c'est un gag. Là. Mes amis savent. On ne sait jamais. On a comme il y a 3-4 possibilités à chaque fois. Soit la personne qui va m'aborder va tout simplement me dire à quel point je suis belle, mais elle va me donner des éloges qui ne finissent plus, alors que pourtant je suis entourée d'autres filles de 6 pieds super chics. Eux autres, ils ne vont pas dire qu'ils sont belles, mais moi, je suis vraiment belle. T'sais. Donc, c'est assez spécial quand on est en fauteuil roulant. C'est un peu ça qui ressort. Moi, personnellement, c'est ce point-là que les gens vont me dire. Ou encore, tout simplement, ils vont me regarder là, passer, là, puis là, ils vont me suivre dans les allées. Ça m'est tellement arrivé souvent, là, les gens, pour m'aborder, ils ne savent pas comment faire. Fait qu'ils vont me suivre dans les allées, dans un centre d'achat ou quoi que ce soit. Vraiment, là, c'est arrivé à plusieurs reprises de me faire suivre, simplement, parce que la madame
ça
ou le
monsieur... Ça fait peur, limite. Hein?
Ben, c'est très spécial, tu sais. Au pire, tu dis bonjour, tu sais, mais non, les personnes, on dirait qu'ils ont comme... Ils n'osent pas dire bonjour, tu sais. C'est vraiment spécial.
Oui, bien, c'est particulier. Puis ben c'est sûr que c'est notre vécu, mais ils sont curieux, puis c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, Andréane. Ils sont curieux, ils veulent savoir, puis nous autres, on va leur permettre de savoir plein d'affaires. Mais je sais qu'il y a des sujets qu'on ne parlera pas aujourd'hui parce que tu n'es pas encore prête pour ça. Mais c'est bien correct comme ça. Mais tu as 15 ans, tu es fâché, tu es frustré, tu aimes les petits gars. Y a-tu un petit gars qui a accroché, là?
Bien sûr qu'il y a un petit gars qui m'a accroché, là. Vous savez bien, là.
J'aime ça parce que l'accent, c'est...
Du lac. Ben non, c'est sûr. Moi, j'avais les hormones dans le tapis, là. Je veux dire, c'est comme ça, hein.
Puis, fait qu'il y a un gars qui s'est intéressé à toi, malgré ton handicap. Lui, il n'était pas handicapé ou... Oui, non?
Non, il n'était pas handicapé. On s'est intéressé mutuellement, mais ça ne s'est pas passé à ce moment-là, justement, parce que, à cet âge-là, passer par-dessus un handicap, je pense que ça demande quand même une maturité là, pour passer par-dessus ça, puis on n'était comme pas encore là. Fait que,
ça demande ça, une maturité ou beaucoup d'amour.
C'est sûr qu'on s'est intéressé, mais ça ne s'est pas passé.
Même pas, beaucoup d'amour, tout court. J'ai jamais été célibataire, moi, tabarnouche. Mais il faut dire que oui.
Mais peut-être pour une fille, je ne sais pas si c'est différent.
Sais-tu, j'avais cette discussion-là avec une autre jeune femme handicapée cette semaine, en situation de handicap, parce qu'on ne dit plus ça une femme handicapée ou un homme handicapé, on dit en situation de handicap maintenant. Puis on parlait de ça, puis elle me disait, moi, je pense que c'est les gars qui ont plus de facilité. Puis là, je faisais compter. Je disais tel nom. Les gars ont beaucoup plus de difficultés que vous, les filles, à se trouver un conjoint. Que nous, une conjointe ou un conjoint. Mais c'est plus difficile pour nous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus difficile pour nous. Mais toi, tu penses le contraire.
C'est basé sur quel...
rapidement, avec elle, on jasait de même pour le fun. Puis je nommais des noms. Tous des noms du monde qu'on connaît. OK? La majorité des gars n'étaient pas en couple. Puis la majorité des filles, eux, l'étaient. Pas vrai, là? T'sais, je te dirais pas de nom là. Mais si je commence à te donner des noms, toi, là, t'en connais-tu d'autres personnes en situation de handicap? T'en connais-tu? Bon. Les gens que tu connais. Bon. On nomme pas de nom. Il y a des gars, il y a des filles. Les gars sont en couple?
Oui.
Ah oui, bon. Les filles sont en couple?
Non.
Je sais pas. Dans le fond, je vais faire une tribune là-dessus un moment donné. D'ailleurs, j'étais à la recherche de gens qui veulent parler de ça. Mais on va voir. On va essayer. Il faudrait faire une étude pour vrai. Mais j'ai toujours eu, moi, l'impression que les filles avaient plus de facilité que les gars. Puis toi, tu vois, c'est pas ça l'écho que t'as. De ton côté, c'est les gars qui ont plus.
Moi, je pense que je pense vraiment que c'est plus facile pour un garçon à cause de la nature de la femme. Mais je pense que les femmes ont plus de facilité à passer par-dessus une différence qu'un homme. C'est un jugement, tu vas me dire, mais je pense vraiment ça.
Tu penses ça, oui?
Vraiment.
Oui.
Je pense qu'une fille, c'est comme plus maternelle, c'est comme plus protecteur. Ça a plus de facilité à tomber amoureux. C'est plus
fleurant. Ah, je t'aime plus. Je t'aime plus, là, parce que tu viens de me péter ma balloune. Moi, je pensais que j'étais... Là, je me dis, j'ai jamais été exceptionnel. Moi, j'ai jamais été célibataire. Je suis exceptionnel. Puis là, tu viens de me dire, non, le grand, tu... non, c'est juste nous, là, on est plus sensibles. On est plus...
Puis les hommes qui sont tellement gourmands, là, hey, c'est pas facile de garder un homme, ils vont se dire, manger le même.
Le même. Mais en tout cas, t'as scoré, fait que là, ta vie amoureuse, elle a starté, t'as commencé à avoir toutes sortes de conjoints. Puis écoute, maintenant, t'es même maman. Oui. Ta vie va à fond, tu es aux études, tu étudies en quoi?
Là, pour le moment, j'étudie en comptabilité et gestion. Donc, je termine ma technique que j'avais commencée il y a 5 ans. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu mon enfant, puis il y a eu le COVID, puis j'ai eu un emploi aussi avant, là, l'offre d'emploi qu'on a parlé un petit peu, là, Richard et moi, au début. Donc, c'est sûr que ça m'a un petit peu ralenti. Mais là, je suis en train de terminer, puis après, ce que j'aimerais faire, c'est psychologie à l'université.
Bon, ben, Colin, t'as pas fini de travailler, puis t'aimes ça.
Oui, j'aime ça.
C'est ça qui est super le fun. Toi, là, tantôt, on a parlé un peu de ton adolescence, puis ton enfance, ça allait super bien, t'étais entouré, t'as été éduqué comme ton frère a été éduqué. Il n'y avait pas vraiment de différence. T'as-tu eu ta passe? On l'a tout de suite, ta passe. Je te dis, puis il y en a qui sont encore dedans, puis ils ont 50 ans. Là. Ta passe, je ne veux pas être vu avec une autre personne handicapée.
Absolument.
Raconte-moi cette passe-là.
J'ai eu cette passe-là tout simplement parce qu'il y a eu un moment donné où je faisais un déni volontaire de ma propre handicap. J'avais pas envie, je refusais catégoriquement d'être catégorisée. Et puis, je voulais vivre ma vie. Tu sais, j'étais pas entourée nécessairement de personnes handicapées, là, c'est sûr. Là, mes amis, tout ça, c'était toutes des personnes qui marchaient et tout ça. Donc, quand j'arrivais avec une personne handicapée, là, j'avais vraiment l'impression que j'étais catégorisée, que je devenais comme plus normale, justement. Mais c'est sûr que ça, c'est une passe, là, on s'entend, là, dans le développement, où est-ce qu'on n'est pas encore capable de se situer par rapport aux autres. Fait que le temps que je réussisse à me situer moi-même, puis à créer à comprendre ma propre personnalité, tout ça, ben oui, effectivement, je détestais ça. D'ailleurs, il fallait que j'aille souvent à la maison répit d'épanage, là, à Alma et tout ça. Puis à cette époque-là, puis j'aimais vraiment pas ça, là, parce que c'était comme une place de gardiennage, là, pour les personnes handicapées, et que j'aimais pas ça être là-bas. Je me disais, mais oui, mais mon Dieu. Tu sais, dans ma tête, je me disais, je serais quelqu'un qui devrait travailler là-bas, pas se faire essuyer les fesses, ça me fâchait, là. Mais tu sais, c'est sûr que ça, je l'ai passé, là, cette passe-là. Aujourd'hui, c'est plus ça, là.
Mais ça prouve encore à quel point on est...
Ouais.
Les citoyens sont un peu méconnaissants de notre réalité. Mais on le dit depuis tantôt, notre réalité, c'est la même qu'eux, avec une difficulté de plus.
Ouais.
Dans le fond, c'est ça.
Mais c'est parce qu'en fait, même dès l'école, là, on nous sépare. Ben moi, je n'ai pas été séparée nécessairement, mais il y a les classes adaptées qui sont un peu reculées dans le coin. Elles ne sont pas nécessairement mêlées. Il n'y a pas de mix, il n'y a pas de... En partant, on nous montre que le handicap est quelque chose de différent, alors que le handicap, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est normal.
Puis on veut se dissocier de ça. On ne veut pas être différent. C'est ça la problématique. Ouais. Fait que ça vient jouer dans notre estime, ça. Ça joue dans le tien?
Plus aujourd'hui, mais ça l'a joué dans mon estime, oui.
Raconte-moi quelque chose. Tu pensais quoi? Ben, c'est pour ça que tu as voulu te rétracter des autres personnes en situation de handicap, tu voulais être un peu ailleurs.
Oui.
Tu ne voulais pas aller à la maison de répit parce que c'était pour que ta mère se...
C'est tout à fait normal quand même, mais non, effectivement, je ne voulais pas aller à cette maison-là, je ne voulais pas être vue accompagnée de ces gens-là, je ne voulais pas non plus être... c'est quand même normal ça, là, j'avoue, là, encore aujourd'hui, c'est ça. Là. Je ne voulais pas nécessairement être lavée ni essuyée par des gens que je connaissais.
Que
j'avais croisé à l'école, exemple, c'est un secondaire 5, ou ben oui, puis tout ça, il est au cégep, je sais c'est qui, puis il travaille là, puis non, c'est impossible pour moi, là, c'est comme une honte, là, j'ai eu honte longtemps de ça.
C'est vrai, c'est logique, parce que tu vis dans une petite ville, quand même, une petite municipalité, tout le monde se connaît.
Ça m'est même déjà arrivé là, qu'un garçon avec qui j'avais eu une hip-hop, pas une aventure, mais un petit quelque chose, puis on s'est retrouvés face à face là-bas, là, puis c'était comme lui qui était en charge de la nuit. Là. Fait que, ça a vraiment, là, pour moi, ça a comme été cauchemar. Si j'ai envie de pipi, je suis dans la merde.
C'est ça, c'est l'enfer pour vrai. Oui, c'est l'enfer, j'ai connu ça aussi. Écoute, mon Dieu, c'est extraordinaire. J'espère que... Parce que là, tu as 24 ans. Moi, j'ai vécu ça il y a bien, bien longtemps. Tu sais, j'ai 48 ans. C'est encore comme ça aujourd'hui. Oui. On a l'impression, en te parlant, qu'il n'y a rien qui a avancé dans la mentalité des gens, malgré le fait qu'on a fait des conférences. Tout le monde, tu sais, je connais plein de gens qui en ont fait. J'en ai fait, tu vas en faire. C'est troublant. Hein? Est-ce que ça te trouble, toi, de savoir que moi, c'était le même avant? Puis toi, c'est encore de même aujourd'hui. Puis dans ton futur, quand tu vas aller travailler, les gens vont juger aussi.
C'est très troublant. C'est désolant. Puis en même temps, je me dis que ça va de pair avec le fait que les gens en général ne sont pas conscients à quel point la vie est fragile. N'importe qui peut se retrouver dans notre circonstance en une seconde. Puis c'est ça, en fait. C'est d'un manque de conscience, je pense, que les gens ne veulent pas nécessairement faire ce pas-là parce que ça les oblige à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils veulent pas voir, en fait.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir?
Ben, ils ne veulent pas voir que leur confort, que leur facilité dans la vie, ben, il y en a qui ne l'ont pas. Ça, parce que ça leur fait mal, tu sais, ça leur fait mal de le constater. Moi, ce que personnellement j'ai conclu là, de mon cheminement, là, c'est vraiment ça. C'est que ben, les gens, tu sais, dans leur quotidien, ils ont un train de vie, ils sont, tu sais, dans le, ils ont leur carrière, leur « je me moi » est extrêmement grand. Puis là, je ne dis pas juste des autres. Moi aussi, mon « je me moi » est très grand. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on cultive là, tu sais, dans ta société. Le « je me moi », ma carrière, ma famille, ma réussite. Fait que quand on arrive et qu'il faut qu'on se penche sur le malheur d'un autre, qu'on se penche sur la différence d'un autre, ben ça ébranle vraiment notre lancée du « je me moi », justement. Fait que c'est certain que ça a un impact là-dessus, puis je pense que le monde n'est pas nécessairement prêt à lâcher ça, mais que c'est un jour à la fois, une personne à la fois, en témoignant un peu comme on fait en ce moment, un peu comme les vidéos, les conférences, puis en continuant à faire ça, qu'on va toucher tranquillement, pas vite, certaines personnes. Mais je pense que de faire un gros mouvement de masse, c'est pratiquement impossible parce que les gens ne sont pas prêts à ça.
C'est difficile, oui. Ouais. Puis aussi, c'est difficile de se déplacer tout dans un lieu, je peux te garantir, parce que quand on a fait la marge de 10%, on était quand même nombreux, mais ça a été difficile d'y arriver. Mais dans le fond, tu vas continuer à travailler pour éduquer les gens, parce que c'est une éducation
que
tu
fais. Oui, ça fait. C'est littéralement ça, en fait, c'est éduquer les gens.
Là, tu viens de partir un nouveau, pas un balado, un vlog. Sur YouTube. Parle-moi de ça, ce vlog-là. Moi, je t'ai vu, t'es super mignonne là-dessus aussi. T'es pas mal belle, t'es pas mal, t'as beaucoup d'assurance. Ben, on l'entend, là. T'es une femme pleine d'assurance. Parle-nous de ton vlog.
Oui, ben dans le fond, c'est ça. J'ai décidé récemment, ça m'a pris quand même du temps, comme je le parle dans la vidéo, ma première vidéo. C'est un vrai du temps de me décider, là, mais j'ai décidé justement de parler un peu de ma vie, mais c'est c'est à chaque semaine, je sors une vidéo d'un sujet qui varie. En fait, ça dépend vraiment de l'émotion du moment, des choses que j'ai vécues dans la journée. Fait que c'est vraiment, c'est jamais planifié d'avance.
Un genre de journal intime,
ouais,
vidéo.
C'est un peu comme ça. Wow. Fait que c'est pour ça, en fait, que je n'ai pas fait des vidéos encore, mettons, sur le bras Jaco ou sur mon quotidien avec ma fille et tout ça. C'est vraiment parce que en ce moment, ce que je fais, c'est présenter une personnalité plutôt que ma technique autour. Fait que je présente moi, Andréanne Bouchard, en tant que femme, avant mon corps. Puis éventuellement, ça va venir avec. C'est sûr, ça va te faire. Mais là, pour le moment, je suis vraiment comme concentrée sur certaines réflexions que j'ai eues, que j'ai dans la vie.
Un but éducatif.
En fait, aussi pour aider les gens dans la motivation. Je pense que les gens ont besoin de ça. Moi, j'aime aider les gens. Moi, j'aime vraiment aider les gens. J'aime voir que mon fardeau à moi, là, tu sais, j'aime pas vraiment dire ça, mais c'est quand même ça, parce que des fois, c'est vraiment un fardeau de ne pas pouvoir se lever toute seule. Mais il aide d'autres personnes à réaliser leur valeur, en fait, la valeur de la vie. Parce que je pense qu'on oublie la valeur de la vie. Trop souvent, c'est trop facile de l'oublier.
Alors, toi, bon, tu as décidé de lancer ce genre de journal intime-là par vidéo, les vlogs, pour aider aussi les personnes en situation de handicap eux-mêmes, j'imagine.
Oui,
parce qu'il y en a qui ne savent pas, puis qui ne connaissent pas, puis qui ne sont pas emmenés. C'est pas tout le monde, on l'a dit tantôt, tu l'as dit d'emblée, toi aussi. C'est pas tout le monde là, qui ont autant d'entourage que nous, qui peuvent aller qui ont autant de caractère que nous. Parce que toi, je t'entends comme une femme avec beaucoup de caractère. Alors, tu fais ça, toi, tu fais ça à toutes les semaines, une fois par semaine à peu près, où tu te livres. Puis on invite les gens qui veulent te retrouver, ils écrivent quoi? Ils écrivent Andréanne Bouchard sur Google. Ou...
Ils doivent écrire Andréanne Boublé.
Boublé.
Oui,
pourquoi
c'est ça.
Boublé?
Boublé parce que normalement j'aurais supposé être une tremblée.
Donc, une vraie tremblée, oui. Une
vraie tremblée du lac. Et moi, je suis Bouchard tremblée. Vous
imaginez-vous. L'affaire.
Je ne peux pas être plus du lac Saint-Jean. Donc, Boublé, tout simplement la contraction des deux noms. Puis c'est Andréanne en deux mots. André au féminin, Anne et Boublé, c'est ça.
Oh ben. Alors, on invite tout le monde à aller te voir puis à aller, aller s'éduquer. Puis moi, j'ai hâte que tu lances des vidéos sur l'intimité. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je voulais en parler aujourd'hui, mais pas voulu à me dire, moi.
Mais on peut en parler, mais je vais juste.
Ah, tu m'as brisé le cœur. Moi, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur.
Je m'excuse. Mais est-ce quelque chose que tu voudrais savoir? Je vais tenter de répondre dans ce que je me sens confortable de faire.
En fait, je ne veux pas savoir parce que je le sais, mais moi, je le sais. Ouais. Mais les autres ne le savent pas nécessairement.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as eu peur la première fois que tu as eu une relation avec un homme? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'es jugé? Est-ce que tu t'es... Parce qu'on est dur avec nous-mêmes, hein? On est dur.
Je peux vous raconter un petit peu la circonstance, puis je pense que c'est quand même intéressant parce que la première fois que j'ai eu une relation avec un homme, j'ai eu cette relation-là, c'est grave, pareil, ce que je m'apprête à dire, j'ai eu une relation avec cet homme-là parce que je pensais que c'était ma seule chance.
Mm. Oh my gosh.
Je pensais que j'allais jamais pouvoir revivre ça un jour. Donc, j'ai laissé la chose arriver alors que je n'étais pas nécessairement amoureuse, que je n'avais pas nécessairement envie que ça arrive. Fait que oui, j'avais peur parce que j'étais quand même jeune. J'avais 16 ans. Donc, à 16 ans, c'est pas que t'es pas prêt. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. Mais je veux dire, tu sais, moi, personnellement, j'aurais attendu, tu sais. Mais je pensais vraiment, je pensais tellement que j'allais finir ça. Je pensais vraiment, j'étais mal informée, tu sais, sur ça, puis je pensais tellement que c'était tellement un tabou aussi dans ma famille, c'est un tabou dans mon entourage, puis socialement aussi, c'est un tabou, tu sais, la sexualité des personnes en situation de handicap, fait que c'est sûr que j'étais, je le savais pas, fait que je me suis lancée avec une personne qui a pas nécessairement été pas correcte, mais, tu sais, je me serais pas nécessairement lancée comme ça, là.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était vraiment mental, là, ça veut dire que c'est autour de toi, ce que tu voyais du monde... À cause de ton handicap, tu n'aurais pas accès à être une femme pleine et entière. Là. On ne parle pas juste dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines, c'était ancré en toi. Là.
Oui.
C'est dingue. Fait que là, tu y as été. Tu y as été, puis c'est dans ce contexte-là que tu as connu cette expérience.
Exactement.
Écoute, c'est limite triste. Hein?
Oui, quand même. Mais par contre, tu sais, je veux dire... Je veux dire, il y a des histoires des premières fois plus traumatisantes. Là, je veux dire, quand on y repense après, c'est triste, mais sur le moment, ça me paraissait comme la chose à faire.
Tu sous-estimais beaucoup en tant que femme?
Oh, oui, énormément. Je n'avais pas confiance en moi du tout à ce moment-là. Là, la femme que je suis aujourd'hui puis la petite fille que j'étais à 16 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées entre les deux. Là. Mmh.
À cause de la société, tu penses?
Ouais.
Oui. Oui. Mais aujourd'hui, tu vas remédier à ça. Andréane, j'ai été super content de te parler puis de te voir en même temps, parce qu'on se parle souvent, mais on se voyait pas, là, je te vois, puis c'est le fun. Puis tu nous as raconté quelque chose, ton petit bout de chemin, puis j'aimerais ça qu'on reprenne cette entrevue dans 10 ans, pour voir, si Dieu le veut, hein, dans 10 ans, j'aimerais savoir où tu es rendu, puis ce que tu fais, puis comment tu le fais, puis... Tu veux être psychologue, c'est ça que tu nous as dit tantôt, ou thérapeute en psychologie?
Psychologue, je voudrais aller chercher mon doctorat en psychologie.
Ben écoute, on travaille fort, puis c'est sûr que tu vas y arriver. Moi, je te salue là-dessus, je te souhaite de passer une belle fin de soirée, et au plaisir.
Merci, bonne soirée à toi aussi, Richard. Bye-bye.
Le Mouvement citoyen handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.